adventurous than ever. This is le Café des Lumières.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Café des Lumières sur Graphite pour sa troisième émission. Si vous ne connaissez pas le Café des Lumières, nous sommes l'association de l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne, une association étudiante qui a pour but de pratiquer la philosophie et d'éveiller la conscience des étudiants, de provoquer des débats, de faire des événements, des cafés philo. Et nous sommes ici pour vous parler de tous les événements qui se passent ici dans notre université. Alors, le Café des Lumières se compose de trois pôles. Le pôle philosophie classique, où là on parle vraiment de philosophie fondamentale, de thèmes très, très, très fondamentaux comme l'amour, comme d'autres sujets assez classiques. Et nous avons aussi le pôle philosophie politique, où nous parlons ici des idéologies, où nous essayons aussi d'instaurer un certain éveil civique chez les étudiants. On va essayer de les politiser, bien sûr, de façon apartisane, pour qu'ils aient une conscience de leur vie politique. Et ensuite, il y a le pôle interculturalité et ouverture sur le monde, où là, on va vraiment parler de choses beaucoup plus ouvertes. On va essayer de s'ouvrir sur les autres cultures et sur les différents thèmes de culture, comme par exemple l'immigration, ce qu'on va parler tout à l'heure. Alors, nous sommes ici en présence de Sophie, notre chère RESP pôle interculturalité. Bonjour Sophie.
Bonjour Antoine.
Et nous avons ici présent Mathieu, qui est le co-responsable du pôle politique.
Bonjour.
Et moi, je suis votre secrétaire, Antoine Crius, occasionnellement animateur de radio. Tout de suite, commençons sans plus attendre à présenter le dernier événement qui s'est produit et la semaine dernière, à savoir le concert débat qui portait sur la philosophie de la musique.
Bonjour, je suis le pôle philosophie. Tout le monde me pense ringard, mais je suis dans le vent.
On se proposait dans ce concert débat de parler de la musique en général, tout en écoutant entre les discussions des morceaux joués par les associations étudiantes de Okata, qui fait du jazz, et l'association de Pianut qui joue principalement du piano. Et nous avons donc commencé par débattre sur l'histoire de la musique, donc savoir d'où vient la musique. On a remonté jusqu'à l'époque de Platon, où là on a commencé à logiciser la musique, c'est-à-dire à la matérialiser. Et c'est là qu'on commençait à créer des partitions, et donc à se souvenir, à avoir un support de la musique. Et c'est ce qu'on appelle plutôt la musicologie, c'est-à-dire l'étude de la musique de manière plus scientifique et de manière plus technique. Alors qu'ensuite, on a aussi débattu sur la philosophie de la musique, qui elle est un domaine plus philosophique forcément, et où là on s'intéresse vraiment à l'art de la musique, en quoi c'est différent, qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que ça nous fait ressentir. Et on a commencé aussi à parler de la temporalité de la musique, qui fait un peu sa différence par rapport aux autres arts, en tout cas, par exemple la peinture ou la sculpture, c'est quelque chose de très figé, qui ne bouge pas dans le temps, alors que la musique, c'est vraiment éphémère et c'est sur le moment qu'on peut ressentir l'art, en tout cas, de la musique, et du coup, les émotions. Et on s'est posé aussi la question de savoir si on appréciait, par exemple, la musique seulement en l'écoutant, ou si on devait comprendre certaines choses dans la musique. Est-ce que la musique propose d'autres vecteurs, comme le vecteur de communication, ou le vecteur de techniques de musique pour faire provoquer une certaine émotion particulière chez l'auditeur? Donc ce débat s'est très bien déroulé en 2h30. Nous étions tous très très intéressés. Et je remercie encore l'association Okata et Pianut qui a bien voulu se joindre à nous pour nous jouer d'excellents morceaux. Ils jouaient vraiment très 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 bien. Moi, c'était vraiment j'ai trouvé ça même marrant de voir des gens jouer aussi bien. C'est vrai que j'ai pas l'habitude forcément de voir en live comme ça des morceaux de piano. On voyait le pianiste qui jouait de mille feux avec ses mains. C'est incroyable. Enfin, je suis encore choqué même maintenant. Et donc voilà, c'est un moment fort mémorable et qu'on renouvellera peut-être le semestre prochain, puisque les débats se sont très bien portés et ça a suscité de l'émotion chez nos débatteurs. Donc vous écoutez l'émission du Café des Lumières, nous vous parlons philosophie et vous êtes sur Graphite 94.9.
Make a choice, one you won't regret. This is your life, this is still your life. Never gon' get away, never gon' get away, never gon' break the chains. Watching me patiently, watching me patiently, watching me take the blame. Never gon' get away, never gon' get away, never gon' break the chains. I'm running out of options and they know.
Vous écoutez le Café des Lumières. Et vous êtes sur Graphite 94.9.
Le Café des Lumières.
C'était Blame It on the Kids de Aviva. Maintenant, nous nous retrouvons pour le pôle politique et pour parler du dernier événement qui a suscité de gros débats, à savoir le transhumanisme.
Pôle politique. Pardon, non, restons sérieux. Entamons tout de suite notre débat sur les gilets jaunes.
Bon, alors aujourd'hui, on ne va pas parler gilets jaunes, mais bien transhumanisme. Et c'est Mathieu qui va nous faire le débrief du dernier débat sur le transhumanisme.
Oui, alors pour commencer, j'aimerais bien faire un petit aparté historique, puisque l'un des plus vieux mythes humains qu'on connaît, qui date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, qui est un mythe sumérien, le mythe de Gilgamesh, déjà évoque ce sujet. Gilgamesh, donc c'est une très longue histoire, donc je vais la résumer assez brièvement. Tout d'abord, il fait face à la mort avec un de ses amis, un de ses proches qui meurt, et ça le désole complètement, ça le désespère. Et du coup, il part en périple pour pouvoir trouver une façon de vivre indéfiniment et passer au-delà de la mort. Dans ce long périple, il va traverser des gravir des montagnes, traverser des marécages, rencontrer plein de personnalités, dont des dieux qui lui diront tout le temps « Arrête, arrête Gilgamesh, la vie suffit comme elle est, et ne cherche pas ça, tu auras des problèmes. » Et finalement, à force de travail et d'acharnement, il réussit à trouver une plante qui donne cette vertu qui est l'immortalité. Et donc en rentrant chez lui, il va pour se baigner et en revenant, un serpent lui chippe. Un peu comme si la prophétie disait de toute façon, on ne pourra jamais avoir cette immortalité. Après, dans l'histoire, il y a eu plusieurs fois ce thème de l'immortalité qui est revenu. On connaît tous l'élixir de jouvence qui datait des alchimistes et qui a nourri de nombreux fantasmes et de nombreuses histoires. Et pour revenir sur le sujet, donc aujourd'hui, dans notre époque, on fait face à une accélération de la modernité, du progrès, et il va à une vitesse exponentielle même. Et pour cela, on utilise les machines déjà aujourd'hui pour pouvoir améliorer notre quotidien. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des proches comme pacemaker, par exemple. Donc c'est vraiment déjà l'exemple qu'on a une fonction vitale qui est gérée par un robot, mais par une machine. Et pour les transhumanistes, c'est le but ultime, c'est de pouvoir non pas soigner, mais arriver à améliorer l'homme. Pourquoi ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'information, la technologie arrive à une vitesse exponentielle. Et si nous, on ne s'améliore pas, de toute façon, on sera dépassé. On ne sera plus capable de suivre cette vitesse à laquelle va le progrès. Et si on veut rester compétitif sur le marché, il va falloir s'améliorer. Donc ça, c'est l'idée principale du transhumanisme. Et le but ultime, c'est de rejoindre le réseau. C'est-à-dire, certains disent de lâcher ce sac d'os que l'on est pour pouvoir intégrer le réseau, pour pouvoir toucher une nouvelle dimension qui est celle du numérique. Ensuite, je voudrais parler d'une université qui se trouve sur le parc de recherche de la NASA aux États-Unis, juste à côté du siège social de Google. Cette université s'appelle l'université de la singularité. En fait, ce mot a été utilisé, vient du jargon du transhumanisme, ça vient à la base de la physique, et c'est l'idée qu'on fusionne l'homme et la machine. Et dans cette université, chaque année, 90 des meilleurs étudiants du monde devenus de 40 pays vont dans l'université et on leur apprend à devenir les nouveaux cadres de demain. Les nouveaux cadres de demain qui sont capables de résoudre les grands défis de l'humanité, que sont le climat, que sont la famine, et j'en passe. Et en fait, ils apprennent, leur enseignement se base sur les quatre grandes nouvelles technologies, donc qui est la nanotechnologie, la génétique, l'informatique et les sciences cognitives. Pour se rappeler, j'aime bien l'acronyme BANG en anglais, donc Bit, Atom, Neuron et Gène. Et en fait, l'idée, c'est qu'en arrivant à contrôler ces briques élémentaires, que sont l'atome, le gène, le bit, nous pouvons contrôler le réel, nous pouvons créer la vie. On a l'exemple, par exemple, d'un laboratoire il y a 4 ans qui a réussi à créer une nouvelle bactérie reproductrice à la base d'un code informatique. Donc on crée des nouvelles espèces, et ces gens-là sont dans une folie frénétique qui les amène à croire qu'on peut tout contrôler de l'échelle la plus basse à l'échelle de la plus grande. Il y a aussi une dimension démiurgique. Les transhumanistes ont la volonté de remplacer Dieu. Comme le disait Nietzsche, Dieu est mort. Et cette crise existentielle, où on n'a plus de réponse aux questions de l'au-delà, aux questions de la mort, il y a un glissement, en tout cas pour les transhumanistes, un glissement vers une solution, vers la science. Donc le progrès serait capable de outrepasser les souffrances, outrepasser la mort. Comme si on devenait un peu un nouveau Dieu, quoi, et on tend à la vie éternelle. Ensuite, il faut faire le parallèle avec le libéralisme, le néolibéralisme. Pourquoi ? Parce que ces deux milieux-là sont très liés. Dans le transhumanisme, on retrouve cette idée de rentabilité de l'homme, de performance, de compétitivité. C'est un jargon qu'on retrouve dans le libéralisme. Et c'est pas par hasard. Je ne sais pas si vous connaissez le point commun entre Jamie Wales, le fondateur de Wikipédia, Trey Parker, qui est l'un des créateurs de South Park, la série, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, ou encore Clint Eastwood. Eh bien, tous sont libertariens. Alors, libertarien, c'est un mot qui fait peur à première vue, mais en fait, c'est la droite dure du néolibéralisme. Le but des libertariens, c'est qu'on soit propriétaire de tout ce que l'on produit et que, in fine, on gère notre corps, on gère notre identité comme une entreprise. Et pourquoi c'est lié avec, le transhumanisme ? Parce qu'on veut être toujours meilleur, être compétitif et s'améliorer. Et du coup, il y a vraiment un lien fort entre, par exemple, dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de PDG qui sont transhumanistes et libertariens et qui ont cette volonté aussi de trouver de nouvelles parts de marché grâce à toutes ces nouvelles technologies. Donc il y a aussi un but mercantile, même si je reste persuadé que c'est des questions existentielles qu'ils veulent répondre et ce n'est pas des nouvelles parts de marché qu'ils veulent trouver. Donc j'aimerais savoir ce que penseraient les gens s'ils savaient que sur le parc de la NASA, de recherche de la NASA, il y a une secte fondamentaliste avec vraiment une portée religieuse. Je pense que plusieurs personnes se poseraient des questions, et on peut, parce que le transhumanisme, en fait, agit... Il ne faut pas croire que c'est quelques penseurs perdus un peu dans le monde qui ont cette volonté-là. C'est vraiment des gens qui sont très proches de l'industrie, qui sont riches, qui ont beaucoup de pouvoir. Et ce mouvement est entre la philosophie, la politique et la science. Et ils font croire que, en fait, c'est la suite logique de la science, du progrès. Et du coup, on y croit, on a envie d'y croire, ça met des étoiles dans les yeux. Mais en fait, c'est pas tellement de la science, c'est de la scientologie. On croit à la science pour sauver, pour nous extirper des questions existentielles. Et c'est là, pour moi, qu'il y a un problème. Notamment, il y a un problème vis-à-vis de la fracture sociale qui est acceptée par ces gens-là. À les écouter, ils savent très bien qu'il y a toute une part de la population qui ne pourra jamais avoir accès à, par exemple, des puces pour pouvoir externaliser leur mémoire. C'est l'un des buts d'Intel d'ici 10 ans. Et ça pose une question qui est, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Et puis si demain, des enfants se retrouvent dans une classe où il faut s'améliorer, et si on ne s'améliore pas, et ben on est mis de côté, on est moins bon, ça crée une réelle fracture qui est pour moi très dangereuse et qui pourrait être génératrice d'encore plus d'inégalités sociales. Et pour finir, j'aimerais parler du serpent, de la prophétie de Gilgamesh qui pourrait être actuelle, c'est le climat, je pense. Il faut vraiment se dire que même si on arrive à toucher à l'immortalité, déjà pourquoi ? Parce que ce qu'on pense pas forcément, mais c'est quand on est immortel, ben on tient beaucoup plus à la vie, parce que c'est beaucoup plus dur de mourir quand on est immortel, parce que je rappelle que c'est pas parce qu'on est immortel qu'on ne peut pas mourir, il suffit d'un accident ou quelque chose comme ça, et du coup c'est un rapport complètement différent à la vie. Imaginez-vous, vous êtes immortel, vous voulez aller faire absolument à tout ce que vous faites, vous n'allez pas vouloir prendre aucun risque, et du coup ça donne une autre réalité à la vie. Et donc on a fait ce débat avec le Café des Lumières, un groupe de discussion qui a soulevé plein de questions, c'était très intéressant. Et c'est pour ça qu'on voulait l'évoquer avant de parler d'émigration.
Voilà, merci beaucoup Mathieu pour cette belle chronique. Et c'est vrai que dans ce genre de débat, c'est les questions autant fondamentales sur l'idéologie qui se posent, mais aussi les conséquences sur la société que l'on débat. Et sans plus attendre, on passera tout de suite après le débat sur l'immigration qui sera présenté par Sophie. Vous écoutez le Café des Lumières et vous êtes sur Graphite 94.9.
Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar
écouter le Café des Lumières sur Graphite. C'était la grande Latino-America de Cali 13, ou Cal 13 pour les franchouillards, qui défend les valeurs de l'Amérique latine.
Le Café des Lumières.
Et tout de suite, nous allons passer au dernier groupe de discussion sur les immigrations vers l'Europe qui s'est produit tout récemment et qui va être présenté par Sophie du Pôle Interculturalité, mais qui a aussi été en partenariat avec le Pôle Politique, puisqu'il s'agit notamment de questions donc assez politiques, par Mathieu.
Ouais.
Chised, hola, ¿cómo estás? Chised, konnichiwa. Chised, pardon my French. Chised, bonjour madame. Bienvenue au pôle interculturalité.
Et au pôle politique. On s'excuse Mathieu.
Un, deux, tu vas me recouper souvent comme ça. Avec l'actualité, c'était l'occasion de... Bah, c'était un sujet assez actuel parce que le dimanche 21 mai, il y a eu des centaines de migrants qui ont occupé l'aéroport de Roissy pour dénoncer les conditions d'accueil, la déportation et la difficulté d'obtenir le droit d'asile dans, les pays, dans le pays des droits de l'homme qui est la France. Et ce mouvement a fait un peu de remous et ça a remis en place, enfin ça a remis au jour la visibilité sur ce combat qui est la difficulté d'avoir un droit d'asile et qu'on va pouvoir détailler aujourd'hui grâce à l'expérience de Sophie.
Donc absolument. Donc pour un peu parler de cette expérience dont Mathieu parle, c'est que moi je suis bénévole dans une association parisienne qui s'appelle Utopia 56. Qui vient en aide aux migrants Porte de la Villette, Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers. Donc en fait, pendant cette, pendant mes bénévolats, j'ai pu rencontrer des migrants et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Mais avant de commencer le débat, on a posé la question avec juste ce petit sujet d'actualité sur quel est le rôle de l'Europe dans l'avenir des migrants. Donc on a eu différentes réponses et ensuite Mathieu nous a présenté la théorie du grand remplacement.
C'est ça, puisqu'on entend souvent parler de cette théorie et du coup on voulait l'expliquer quand même et faire un point dessus. Avant ça, je voulais rappeler qu'il y a quand même 48% des Français qui croiraient aujourd'hui au remplacement d'une civilisation par une autre en Europe. Et ce sondage, il vient de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès. Donc c'est une fondation qui est plutôt à gauche, donc qui ne fait pas de plan sur la comète, qui n'a pas de volonté politique. Et pour rebondir, ce grand remplacement, à mon avis, il s'agit de la plus grande histoire idéologique et conceptuelle de la droite radicale depuis 50 ans. Elle est là grâce à cause de Renaud Camus, l'auteur du Grand Remplacement, c'est un écrivain. Pour lui, le Grand Remplacement, c'est ni une théorie, ni un concept, c'est un fait, au même titre que la guerre de Cent Ans ou la Révolution française. Il s'agirait d'une submersion migratoire, une substitution ethnique, d'une invasion ou encore d'un changement de civilisation en Europe dû à la migration arabo-musulmane et africaine. Il y a eu deux réactions dans l'opinion face à cet écrit. Il y a ceux qui sont pour, qui sont d'accord. Ça a nourri notamment la droite de Wauquiez, le Rassemblement national ou encore des gesticulateurs comment il s'appelle ? Non, je ne sais plus, je dirai tout à l'heure. Et ensuite, il y a les autres réactions, c'est ça n'existe pas du tout, donc c'est l'extrême opposé. Donc non, il n'y a pas de migration, il n'y a aucune influence. Et on n'a pas envie non plus de nous de tomber... Dans ce panneau-là, parce qu'il y a des migrations, il y a des conséquences. Et après, il y a ceux qui disent oui, effectivement, il y a des migrations, et c'est une bonne chose. Et il y a plusieurs arguments pour ça, notamment économiques, et j'aurai l'occasion de revenir dessus en fin d'émission. Donc Camus a dit lui-même que ce n'était pas un adepte des chiffres, que son pamphlet était idéologique, politique, mais qu'il n'avait pas vocation à établir rigoureusement des chiffres expliquant ce qu'il voulait dire. Et pour Edouard Planel, le directeur en chef de Mediapart, je rappelle, cette théorie, elle permet d'organiser une grande intolérance et elle a pour but, in fine, de préparer des politiques d'expulsion et d'inversement des flux migratoires. Et pour l'anecdote, il y a l'attentat qui s'est passé il y a quelques mois de ça en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, qui a fait plus de 40 morts dans une mosquée. La personne, ce terroriste-là, avait en tête le grand emplacement et ça soufflait son idéologie raciste. Donc je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, hein, je ne veux pas dire que Renaud Camus appelle au meurtre, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on peut voir en quoi ça peut nourrir des formes d'intolérance. On peut se demander si c'est une illusion ou une réalité. Y a Jérôme Fouquet, par exemple, qui est un historien écrivain, qui a, pour donner un indicateur de cette évolution, de l'influence de la migration en Europe, a regardé le nombre de noms donnés à la naissance en France d'origine arabo-musulmane. Et il a constaté qu'en 1964, il y a seulement 2% des prénoms donnés à la naissance qui étaient d'origine arabo-musulmane, et qu'en 2017, il y a 16% à peu près des prénoms qui étaient donnés avec une origine arabo-musulmane. Bon, ce chiffre est très critiquable, hein, tout d'abord parce que déjà dans les années 60, quand on venait en France, quand on était migrant, on francisait beaucoup plus les prénoms dans une logique d'intégration. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. On a des retours, une revalorisation de l'identité des gens. Et du coup, il faut prendre ce chiffre avec des pincettes. Après tout, moi, je reste attaché à l'idée que l'identité française, elle n'est pas ethnique, mais philosophique. On a une longue ligne philosophique, politique, et c'est important de l'assimiler pour pouvoir intégrer le pays. Mais de là à dire que les origines empêcheraient le bon fonctionnement de la culture, ou en tout cas feraient dériver complètement la culture française, je me méfie.
Merci Mathieu. Et du coup, moi j'ai continué ce débat en parlant un peu des chiffres, et pour ça, on a trouvé une très très bonne vidéo de DataGueule sur YouTube sur les migrants. Moi, j'ai résumé les principaux chiffres qu'annonçait cette vidéo. C'est qu'en 2014, 75% des migrants qui ont trouvé la mort, c'est en périssant, en traversant la Méditerranée par bateau. Et aussi qu'en 2010, moins d'un réfugié sur cinq vit en dehors de sa région d'origine. En 2015, 240 millions de personnes ont migré pour des raisons économiques, politiques ou de survie dans le monde. Et en fait, ça ne représente que 3% de la population mondiale. Et en fait, ces phénomènes de migration n'ont rien de nouveau. Parce que après la Première Guerre mondiale, il y avait en fait 5% de la population qui était migrante. Donc voilà, donc en fait, on s'est un peu rendu compte avec ces chiffres. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle dénonce en partie en fait, l'horreur de venir jusqu'en Europe, le prix des passeurs, la difficulté que c'est de venir en fait, juste pour survivre. Et moi, j'ai voulu ensuite un peu insister sur ce qui se passe une fois qu'ils ont arrivé, une fois qu'ils ont vraiment galéré à rentrer en Europe, comment ils sont accueillis et comment ça se passe la demande d'asile dans le cas de la France. Donc en fait, un migrant qui arrive en France, il a 3 mois pour faire une demande d'asile. Et pour ça, il est obligé d'appeler une institution qui s'appelle l'OFI. Donc il doit appeler avec un numéro payant l'OFI et en moyenne, il aura sa réponse entre 5 et 9 mois, très rarement avant. Donc déjà, ça commence, il arrive à l'OFI, il est obligé de mentir sur le nombre de mois qu'il est là. Donc s'il est très très sale, l'OFI peut se poser des questions et lui dire non, ça fait pas 3 mois, donc on te reçoit pas et en fait, tu peux pas faire ta demande d'asile. Soit ça passe et là, du coup, il passe à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'il va à la préfecture. Donc ce qui se passe dans le cas réel, parce que moi je vous parlais du cas réel, parce que j'ai eu la chance de fréquenter des personnes qui ont vécu ces procédures, ils arrivent à la préfecture, s'ils sont trop sales, on ne les laisse pas rentrer parce qu'ils ne parlent pas français, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Donc en général, des membres de l'association dont je fais partie, Utopia 56, les accompagnent juste pour qu'on les laisse rentrer, avoir leur rendez-vous à la préfecture. S'ils le ratent, si personne ne les accompagnait, parce qu'ils n'ont pas pu rentrer, parce qu'on ne les a pas laissés rentrer, ils repassent à la caisse départ, appel de l'OFI, ils en ont pour 5 mois. Donc c'est quand même assez compliqué. Une fois qu'ils sont à la préfecture, il se passe plusieurs choses. On prend leur empreinte. Donc il y a la procédure normale, qui est un cas extrêmement rare, c'est-à-dire que là, ils ont juste leur rendez-vous d'après, et ils sont quasiment sûrs d'avoir leur droit d'asile. Il y a la procédure accélérée, qui est un super mot pour dire en fait, tu vas galérer. C'est-à-dire que c'est pas du tout une procédure qui va plus vite, c'est une procédure bien plus longue, parce qu'on vous demande de faire un récit de vie, on vous demande d'expliquer, en fait on demande des justifications à votre migration. Et ensuite, il y a la dernière procédure que je vais plus détailler, c'est la procédure Dublin. C'est-à-dire que la personne a donné ses empreintes. On a retrouvé ses empreintes à la sortie d'un bateau en Italie par exemple. Eh bien la France vous dit « Ah mais vous, votre demande d'asile, elle est en Italie ». Vous n'avez rien à faire en France. Donc le migrant, il doit détailler pourquoi il veut rester en France, pourquoi il ne veut pas aller en Italie. Donc là, les procédures sont extrêmement compliquées parce qu'il doit faire un récit de vie en langue française. Donc la plupart ne parlent pas français. Et justifier sa demande de résider en France. La première raison des migrants qui ne veulent pas retourner en Italie, donc là je vais parler de l'exemple de l'Italie en particulier parce que j'ai eu la chance de rencontrer des migrants dont un qui s'appelait Hamza, je vais reparler de lui plus tard parce qu'il était mineur et c'est un cas un peu particulier, qui lui était passé par l'Italie et est venu en France pour la simple et bonne raison qu'en Italie, les policiers sont extrêmement violents, qu'ils ont le droit de les matraquer, de leur casser des membres, ça ne choquera personne. Et qu'en France, on a au moins la dignité, si on peut dire ça, de ne pas le faire. Donc en général, les gens ne veulent pas retourner en Italie, ou sont en France pour de bonnes raisons, donc ils ne veulent pas y retourner. Sauf qu'ils se sont mis en procédure Dublin, et que c'est pas eux qui vont décider. Donc voilà, les procédures sont extrêmement compliquées, et à l'issue du Dublin, soit ils repassent en procédure accélérée, si ça a fonctionné, si tout s'est bien déroulé, ce qui est un cas extrêmement rare, malheureusement. Procédure accélérée, bon voilà, ils sont obligés de tout justifier. Au final, ils ont leur droit d'asile au bout de je sais pas combien de mois, c'est immense. Et les autres Dublin qui n'ont pas eu cette chance, c'est-à-dire soit ils n'ont pas donné exactement des raisons valables pour rester en France, ou qui n'ont pas respecté à la lettre ce qu'ils ont écrit dans leur récit de vie, et on leur dit, écoutez, dans un mois, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher. Alors là, on vous signe un gros chèque pour retourner en Italie ou pour vous ramener chez vous de base. Ou alors, vous ne vous présentez pas ce jour-là, personne ne vous ramène, mais que pendant 15 mois en France, vous devez être vu nulle part.
Mais alors, quand on est en France et on n'a aucun service, il n'y a personne qui est là pour nous aider, nous offrir un logement
Alors, j'aimerais juste déjà finir sur la procédure de demande d'asile et après on va parler des conditions d'accueil des migrants en France. Donc, je vais juste finir sur la procédure Dublin. Donc là, dans ce cas-là, on appelle ça des migrants fantômes, c'est-à-dire que pendant 15 mois, ils ne doivent être pris nulle part par les policiers. On ne doit pas une seule fois relever leur identité ou leur empreinte. C'est quasiment impossible. Et à l'issue de ces 15 mois, s'ils arrivent à ne pas se faire choper, s'ils se font choper, évidemment, c'est directement, on les prend et on les ramène soit en Italie, soit dans le pays où ils ont été dublinés. Et s'ils y arrivent, ce qui est souvent arrivé, ils peuvent repasser par la procédure et repasser Dublin si... en général, ils repassent Dublin parce qu'on a déjà leur empreinte. Donc là, ils ont juste leur deuxième chance pour faire un bon récit de vie et justifier pourquoi ils veulent rester en France. Donc là, ça se passe comme ça. Maintenant, on va parler des conditions d'accueil en France. Déjà, je veux évoquer le cas extrêmement choquant des mineurs. Donc en France, un mineur migrant, il doit être pris en charge par une ONG et très souvent Médecins Sans Frontières. Une fois qu'il est déclaré comme mineur, là, il est logé, il va à l'école parce que c'est obligatoire et nourri. Donc ça, c'est financé par Médecins Sans Frontières et c'est Médecins Sans Frontières qui s'en charge. La France aujourd'hui a délégué à la Croix-Rouge française, enfin en tout cas à Paris, l'État français a délégué à la Croix-Rouge française la charge de discerner un mineur d'un majeur. Donc une personne, un migrant mineur arrivant en France, il va se présenter à la Croix-Rouge. Et à ce moment-là, seulement 20% des mineurs vont être déclarés comme tels. Donc c'est très inquiétant parce qu'en fait, on se retrouve avec des cas de personnes comme Hamza, 15 ans, c'est écrit sur sa tête qu'il a 15 ans, qui se présente à la Croix-Rouge française, il explique comment il est arrivé ici. En général, il a un interprète. Et c'est une personne qui décide, ah oui, mais attends, t'as fait tout ce trajet, t'as été si fort, c'est impossible que tu sois mineur, donc on te déclare comme majeur.
Alors pourquoi, tu serais l'expliquer, pourquoi ces 20%, comment ça se fait ?
Pourquoi ces 20% ? Pour moi, et c'est ce qu'on en a vraiment très, très facilement conclu avec l'association Utopia 56, c'est qu'il y a des quotas et que c'est trop compliqué aujourd'hui pour des institutions comme Médecins Sans Frontières de gérer autant de migrants. Parce qu'à Paris, c'est vraiment un nombre énorme de migrants quand même.
Mais ils débordent.
Pardon ?
Mais ils débordent.
Oui, oui, absolument, absolument. Enfin, je pense qu'on est tous passés par le périph, Porte d'Aubervilliers, Porte de la Chapelle, C'est absolument incroyable. Donc ces personnes sont déclarées comme majeures. Il y a aussi des gens, enfin moi je vais vous raconter l'histoire choquante de cette jeune fille, Fatih, qui n'avait même pas 16 ans. Elle est arrivée tard un soir, donc on lui a dit faut que tu ailles à la Croix-Rouge, elle y va, elle passe très tard, genre 21h, on la déclare comme majeure. Donc là c'est pas on appelle, elle n'a pas le temps de se renseigner pour appeler des instituts comme la Cité des Dames pour dormir à l'abri le soir, parce que pour les femmes c'est très particulier, on va en parler juste après. Elle se retrouve dans la rue, évidemment dans la rue ça se passe super mal, elle tombe enceinte sans son consentement évidemment, et là encore Médecins Sans Frontières a refusé de s'occuper d'elle alors qu'ils n'ont pas le droit.
Mais alors quels sont les avantages, si je puis dire, des mineurs ?
Ah alors les mineurs, eux, ils sont obligés d'être logés, et obligés d'être nourris et instruits. Donc c'est les migrants mineurs, ils arrivent, ils sont pris en charge par Médecins Sans Frontières et en partie par l'État français. Donc ils ont tout avantage à être déclarés comme mineurs, parce que du coup ils ont toutes ces aides-là. Bon après, à partir de 18 ans, c'est mort, hein, là ils se débrouillent. Mais du coup, pendant tout ce temps-là, ils ont le temps de faire leur demande d'asile, la totale, et c'est vraiment un gros avantage pour eux. Donc voilà, bon, en tout cas c'est très très difficile de se faire déclarer comme mineur et à moins d'être vraiment très petit, ça n'arrive pas en fait en France. Parce que donc c'est 20% à Paris, mais dans certaines villes c'est 1% seulement qui sont déclarés. Dans certaines où il y a très très peu de migrants c'est 100%. Paris c'est 20%, voilà, c'est absolument scandaleux, sachant que du coup il y a des enfants de 15 et 16 ans qui passent leur temps dans la rue. Maintenant il faut absolument parler des hommes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les hommes, donc les hommes majeurs, c'est ceux qui n'ont aucun droit en fait. Ils arrivent, c'est les gens avantagistes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des femmes ou des enfants qui doivent être logés. Donc ces personnes-là doivent vivre dans la rue parce que de toute façon, on n'a pas assez de place pour eux. Donc c'est extrêmement décevant quand un homme migrant vient nous voir pour nous demander où il peut dormir le soir et qu'on lui dit, tu pourras essayer de te présenter là. Là, tu seras tiré au sort, oui, parce qu'il y a aussi des systèmes de tirage au sort ou des systèmes de récompense. Si tu viens et qu'on te prend plusieurs fois en photo dans le mois, t'as plus de chances de venir dormir ici. Donc complètement incroyable, faire un système de jeu autour de juste dormir dans un endroit chaud, c'est complètement insensé. Et donc ça se passe comme ça à Paris. Donc les hommes en général dorment dans la rue. Et les mineurs déclarés majeurs, garçons, dorment dans la rue. Pour les femmes, il y a des centres d'accueil, comme la Cité des Dames, où on les laisse pas dans la rue parce qu'on sait que les violences sur les femmes la nuit sont extrêmement violentes. Une grande partie des femmes qui n'ont pas eu le temps de se renseigner auprès d'associations comme Utopia 56 ou n'ont pas eu l'occasion de les rencontrer, une très très grande partie d'entre elles finissent dans des centres de prostitution à Paris parce que c'est le seul moyen de dormir et d'avoir un peu d'argent. De dormir au chaud et d'avoir un peu d'argent. Donc voilà, c'est absolument tragique ce qui se passe. Mathieu,
dans le cadre de ton association, comment vous intervenez? Quelles sont vos actions?
Alors, il y a plusieurs actions. Il y a différents pôles aussi. Il y a le pôle récolte et tout ça, où on récolte des tentes qu'on distribue ensuite. Il y a le pôle mineur. Donc là, justement, on essaie de voir les mineurs qui viennent d'arriver, les emmener à la Croix-Rouge. S'ils ne sont pas pris, on essaie de les loger au plus possible avec le système de logement solidaire, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, où en fait, c'est des habitants à Paris, il y en a environ 200 qui disent une fois par semaine on veut bien accueillir quelqu'un, tout ça. Donc nous, on essaie de mettre les mineurs qui ont été déclarés comme tels là-bas. Et la plus grosse partie, c'est les maraudes de jour et les maraudes de nuit. Donc les maraudes de jour, c'est-à-dire qu'on va au petit déjeuner de l'Armée du Salut, au déjeuner des Restos du Cœur, au Secours Populaire. Ils nous reconnaissent, ils connaissent l'insigne, ils viennent nous voir, ils posent plusieurs questions. Donc en général, ils posent des questions sur leur demande d'asile. Donc là, qu'est-ce que tu peux leur dire à part tu vas aller voir une permanence juridique parce qu'on peut pas trop t'aider, ou tu vas aller voir un interprète pour pouvoir traduire ton récit de vie. Lofi, t'ont pas répondu, ça fait combien que t'en t'appelles? 3 mois? Faut continuer. T'as pas d'argent pour payer Lofi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux un téléphone? T'essaies de répondre. D'essayer de les rediriger vers des permanences juridiques. On leur donne aussi les lieux de repos la journée, parce qu'il y a des lieux qui sont ouverts pour qu'ils puissent se reposer la journée. Des bibliothèques. Il y a des gens trop mignons qui viennent et qui te demandent « Oh là là, ça manque de faire de l'art. Est-ce que tu connaîtrais un endroit où je peux faire de l'art gratuitement ?» Et là, t'as l'atelier de la poissonnerie à Paris, incroyable, qui accueille tout le monde. C'est génial. Et où ils peuvent récupérer des affaires. Si vraiment ils en ont besoin, nous, on peut leur fournir sur le coup... soit des kits hygiène, des kits pour dormir dans la rue. Et aussi, on les redirige vers Médecins sans frontières. En gros, on leur donne les horaires, on leur donne les instructions pour s'y rendre, parce que pour la plupart, ils ne connaissent pas le métro, ils ne connaissent pas Paris, ils ne connaissent pas le français, donc c'est un peu compliqué. On leur écrit des mots pour que les gens les aident dans la rue. Et pour les gens qui ont vraiment besoin d'une grosse aide, où on sent qu'il y a vraiment trop de difficultés, là, on met des bénévoles sur le coup. Et ils font des accompagnements, donc ils les accompagnent chez les médecins, à l'hôpital, ceux qui doivent se faire opérer. Nous, il y avait un mec, il est venu me voir, il me dit, son ami me traduit, il a super mal aux dents et tout. Je lui dis, t'as quoi? Il retire son cache-cou, et sa mâchoire était complètement déboîtée depuis 3 semaines, elle pendait. Donc lui, on l'accompagne à l'hôpital, évidemment. Et en gros, on les aide à accéder à ces soins-là, on essaie de rendre leur vie un peu moins... terrible, on est aussi là pour leur parler, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément grand chose à demander, mais ça fait 7 ans qu'ils sont dans la rue, donc ils aimeraient un peu avoir de la discussion. Et nous, c'est ce qu'on est capable d'offrir. Et c'est une très chouette asso, je vous encourage à devenir bénévole là-bas, c'est très sympathique.
Mais alors, si je ne me trompe pas, normalement, les pays où des droits de l'homme doivent être garants du minimum syndical pour manger, se loger, se nourrir. Comment ça se fait déjà que c'est délégué à la Croix-Rouge en France?
Moi, je pense que, ce n'est que mon avis, je pense que les faits en témoignent, mais la France n'a pas du tout mis les moyens pour l'accueil des migrants, qu'aujourd'hui, on préfère fermer des gymnases la nuit complètement inhabités qu'y mettre quelques migrants pour qu'ils puissent juste dormir décemment, c'est-à-dire au chaud. Et non, les droits de l'homme ne sont pas assurés, absolument pas. Ils délèguent parce que simplement l'État n'y met pas les... ne met pas l'investissement qu'il faut dedans, autant financier que l'investissement de base.
D'accord. Après, j'aimerais souligner un élément parce que j'avais discuté avec plusieurs amis qui me disaient « Mais comment ça se fait qu'il y ait des hommes seuls qui viennent, qui migrent sans leur famille, ils laissent leur famille seule, c'est des opportunistes. » Et en réalité, c'est juste que c'est très difficile de partir avec toute sa famille et qu'avec tout le périple qui les attend, il vaut mieux partir seul et s'assurer de trouver un endroit paisible pour pouvoir reconstruire une vie et ensuite faire venir la famille. Souvent, ça s'oublie. On retrouve des hommes seuls et on a l'impression qu'ils sont partis par opportunisme. Et souvent, ça reste une réalité.
Oui, c'est complètement le cas pour une petite partie d'entre eux. C'est clairement pas la plus grande partie. Il y a aussi beaucoup de gens, et alors là, ça augmente de plus en plus avec l'État islamique. Donc nous, on a eu beaucoup de personnes qui venaient des pays qui commençaient à être touchés par l'État islamique, dont Hamza, qui m'a expliqué que lui, il avait complètement été jarté après qu'on ait tué sa famille devant lui. Ça, c'est des cas malheureusement qui arrivent. On avait aussi rencontré un ancien garagiste qui était dans son garage tranquillement en train de retaper sa voiture quand l'État islamique est arrivé avec des kalachs. Ils lui ont dit « Bon, soit tu rejoins l'État islamique, soit tu dégages, soit on te tue. » Donc pas d'adieu à la famille, adieu nulle part et tu t'en vas, en fait, tu fuis, tu survis simplement. Donc aujourd'hui, en fait, les cas de migration, ils sont causés par plein de choses. On a aussi eu des Ukrainiens qu'on avait marre de la persécution envers eux parce qu'ils étaient homosexuels et tout ça. Donc il y a énormément, il y a vraiment beaucoup de raisons de migrer. Et en tout cas, moi, je pense que la France doit mettre les moyens de les accueillir et que, en fait, ces personnes qui déjà luttent pour survivre devraient, voilà, comme tu l'as dit, au moins pouvoir manger, dormir et vivre décemment.
Oui, et d'ailleurs, une des idées qui, moi, me paraisserait normale, ça serait qu'en Europe, on harmonise les politiques migratoires et qu'il y ait un réel partage des responsabilités. Voilà, comme on l'a dit, s'il y a 3% du monde qui est en migration, on peut très bien se débrouiller pour partager les responsabilités entre les pays, pour pas qu'il y ait de différence entre les pays qui poussent les migrants à aller dans certaines destinations en particulier. Après, aujourd'hui, on a le regard tourné vers les migrations africaines. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de précédents. Le siècle dernier, il y a eu des grosses vagues de migration provenant d'Italie et de Pologne. On a tous des proches descendants de Polonais, d'Italiens. Et d'ailleurs, ils ont été stigmatisés à l'époque, très insultés, un peu comme aujourd'hui, souvent sur des caractères physiques. On connaît l'insulte polaque ou même les spaghettis, enfin voilà, des trucs très, très, très joyeux. Et à ce moment-là, il y a eu des associations pro-italiennes, ou en tout cas qui promouvaient la nation italienne et la culture. Donc il y avait des fortes résistances dans les villes en se posant la question « Mais que va devenir la France ? La culture va changer ?» Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et au contraire, ça enrichit la population française et du coup son ouverture d'esprit, en tout cas je pense. Et ensuite, je voudrais revenir sur des arguments plus économiques. Tout d'abord, la démographie. En Europe, on a une Europe qui vieillit de plus en plus. Ils estiment que s'il n'y avait pas l'immigration africaine, on serait à peu près 1,2 de démographie en France. Ce qui serait très difficile à soutenir. En tout cas, on ne pourrait pas avoir le peu de croissance qu'on a aujourd'hui. Avec les migrations, on arrive à 1,8. Donc c'est vraiment une manne démographique qui permet d'avoir du PIB, qui permet aussi de soutenir le système des retraites qui est dépendant complètement des actifs et qui, dans une population vieillissante, pose de gros problèmes. On pense notamment au Japon, qui a une très faible... très, très faible nombre d'enfants par famille et qui est surendetté, 600% du PIB, je le rappelle. Et ensuite, je voulais parler d'un exemple qui est plus en lien avec l'enseignement, vu qu'on est à l'école, à l'UTC. On a d'ailleurs de nombreux étrangers non communautaires qui sont présents à l'école. Et il y en a beaucoup qui pensent que voilà, les étudiants étrangers, ce serait un peu comme des passagers clandestins qui profitent d'un système scolaire et qui ensuite part et au final, c'est juste à la charge de l'État français. Mais selon un rapport demandé par le Campus France, donc qui s'occupe de ces étrangers à l'université, ils expliquent que c'est l'inverse en fait. On gagne plus d'argent à les faire venir. On gagne à peu près 4,7 milliards en France grâce à ça. Sachant qu'il y en a certains qui vont rester, qui vont travailler en France et donc payer leurs impôts en France. Donc c'est une manne économique. Et cet argument-là ne tient pas.
Du coup, on va passer sur une petite musique avant de venir sur un dernier point de ce débat.
Chilling with Fab and Guts, having a good time, baby. telling the truth, baby. You know what I'm saying? Not exploiting the youth, baby. All that good stuff. I don't know why I said that. It just rhymed. But you know what we're doing right now? We're doing that album, Hip Hop After All. Roll track.
Alors, à l'issue de ce débat, on a parlé un petit peu d'aménagement du territoire, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les migrants se retrouvaient en tout cas à Paris, porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, porte de la Villette. Et du coup, on en est arrivé à parler un peu ville, périurbain et langage, et on s'est un peu intéressé au cas de Paris. Et on trouve très pertinent de vous passer le son d'une vidéo... d'une vidéo extraite du film Les Roses Noires, un film qui est sorti en 2012. Et voilà, on va juste vous le passer tout de suite.
Nous, quand on arrive sur Paris, directement, on nous entend, ils savent directement qu'on est du 93. Et les gens de Paris, eux, ils ont plus à parler, ils parlent correctement. Parce que voilà, ils ont une façon de parler, une façon de se tenir, ou quoi que ce soit, qui n'est pas du tout la même que la nôtre.
C'est vrai que parfois, on nous reconnaît grâce à ça. Quand on va parler, on va savoir que t'es d'ici et pas d'ailleurs.
Les Parisiens et les banlieusards, ils communiquent pas. Ils peuvent pas se comprendre. Ils se mélangent pas. Tu vois, eux aussi, ils dialoguent pas. Puis c'est pire qu'une frontière, c'est un mur. Faut un code pour passer.
T'essayes de donner bonne impression. Franchement, t'essayes. Hein. C'est dur. Parce que même si tu utilises les bons mots, tu vois, t'as l'accent de ta cité. Et il revient. Et là, tu sens que... Je viens pas de chez toi. Ceux de Paris, ils viendront sur Saint-Denis. Ils auront du mal à parler comme nous. Nous, quand on va sur Paris, on a du mal à parler comme eux. On sent que c'est des gens bien, des gens civilisés, tu vois. Non, dans le sens où, enfin, c'est des gens... Ils ont une éducation pas comme la nôtre, tu vois. Ils sont bien, ils parlent bien. Moi, j'aimerais bien savoir parler comme eux.
Pour moi, le langage bourge, c'est parler avec des mots soutenus. J'irais pas par les gens civilisés, parce que moi, je veux pas dire qu'on n'est pas civilisés, mais par les gens, par les Français. Non, je peux pas dire ça parce que je suis française aussi, mais je parle par les gens qui ne viennent pas de banlieue, en fait.
Ça fait bonjour, oui, je m'appelle Kaina, c'est ça, j'aime pas, je te l'en montre. Ça, c'est horrible.
Nous, encore, quand on parle français, mais français à l'arraché. C'est pas un français, on accorde les verbes, le sujet. Franchement, on parle, ça sort de bon cœur. Mais non, c'est franchement tout à sa disposition. Il faut parler correctement, bien formuler ses phrases.
Pour les personnes qui n'ont pas grandi dans le même milieu que nous, c'est quand on parle comme ça, on est des racailles pour eux, et parce qu'on parle pas forcément la même. On est différents d'eux, donc on n'est pas bien par rapport à eux.
Hier, à Paris, avec ma mère, j'ai pas parlé le langage des cités, j'ai parlé français. Mais j'étais un peu en galère pour parler français, parce que à force de parler le langage des cités, ben, on a l'habitude, on oublie le français. J'arrivais pas à dire des mots, j'hésitais. J'avais peur de me tromper sur un mot.
Faut que je parle plus d'un langage soutenu. Parce que des fois, si par exemple je vais travailler, il y a des gens qui me disent des mots que je comprends pas. Enfin, je vais être un peu perdu en fait. Je vais pas comprendre. Il faudrait que je réfléchisse. Je ne vais pas dire non plus à la personne, vous pouvez reformuler pour que je comprenne. Non.
Surtout ma prof de maintenant veut nous aider à mieux parler dans la langue française. Parce que déjà, wesh, c'est pas du tout dans la langue française. On ne dit pas wesh la famille ou un truc comme ça. C'est pas du tout dans la langue française. En même temps, elle nous aide à mieux parler dans la langue française et pour qu'on parle plus de ce langage. Mais dans la classe, personne n'arrive à parler ce langage comme ça. J'ai pris l'habitude du langage du quartier. Voilà, et quand la prof, à chaque fois, elle me reprend quand j'ai un truc du quartier, ça m'énerve.
J'ai tremblé. Je suis pas
une Les mots, des fois que la prof nous dit, on ne retient pas du jour au lendemain, on ne s'en sert pas. Et pourtant, on sait c'est quoi le mot, on le comprend comment il est ce mot, mais on ne le dit pas, on. Voilà. Et des fois, on ne les retient pas.
C'est pas facile, en fait, à retenir. Parce que, exemple, là, vous allez être en cours de français. Juste après, dans la cour de 15h20, la récréation, et ben, vous allez voir vos copains et copines et ben, vous allez employer le langage des cités. Il y a des fois, vos copains et copines, ils sont dans la même classe que vous. Vous allez employer le français. Ils vont vous moquer de vous, ils vont dire « Ah, t'as pas exemple, ils vont dire « Ah, t'es là la tapette » ou « Pourquoi tu parles comme ça, tu crois que la prof a fait peur » ou ils vont commencer à mal vous parler.
Voilà un témoignage très poignant, en tout cas pour moi, qui permet de comprendre. Bon, d'abord, j'aimerais rappeler, on a fait un passage assez rapide, c'est pas des migrants qui parlent, hein, c'est des deuxième, troisième, quatrième génération d'enfants, de parents qui ont été migrants. Et du coup, en général, qui sont en banlieue, en tout cas en périurbain. Et c'est l'occasion de comprendre qu'il y a vraiment une barrière de la langue qui est très difficile à passer. Moi, je me suis senti personnellement déjà agressé avec des groupes de jeunes de quartiers populaires dans leur façon de parler, que je trouvais vulgaire, que je trouvais agressive. Et en fait, en traînant un peu plus avec eux, on comprend très vite que ce n'est pas du tout une forme d'agressivité. Souvent, c'est plutôt l'inverse. Et c'est l'idée de se sentir rejeté, de se sentir... inférieur, un sentiment d'infériorité qui, du coup, peut générer une forme d'agressivité. Et du coup, ça touchait avec le sujet des migrants. Voilà, là, on parle de gens qui sont de là avec des générations depuis 10, 20, 30 ans en France. Quand on est migrant, qu'on arrive, ça fait 3 mois qu'on est là, on ne connaît rien à rien, on ne sait pas ce que c'est un métro, on a la barrière de la langue. Il y a tout un tas de démarches administratives qu'on a déjà détaillées. Et du coup, ça nous amène à réfléchir qu'il nous faudrait un peu plus de solidarité, en tout cas de conscience, pour pouvoir les aider.
Voilà, merci beaucoup en tout cas à vous deux pour ces témoignages, ces explications, tantôt touchants, tantôt un peu effarants. Voilà, merci beaucoup. Je profite juste pour la fin de l'émission de faire l'annonce aux étudiants UTC que c'est la semaine de la consultation. C'est-à-dire que vous avez 2 sondages, un en ligne, un papier, dans le cadre de l'amélioration de la formation à l'UTC pour les enjeux sociaux et environnementaux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à répondre. Je vous dis donc dans 2 semaines, c'était le Café des Lumières sur Graphite 94.9. Et sur ce, je vous dis lumineusement vôtre.
Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Café des Lumières, out.